quand tu étais nu. Personne ne pouvait passer dans les pâtures basses où coulait le ruisseau sans respirer les vaches, car leur odeur douceâtre s'accrochait aux roseaux, aux fleurs des champs et à la tendre herbe fraîche. Là, dans les champs, l'amour et la tendresse pouvaient vivre heureux. Une fois apaisées les clameurs et les bruits des vents d'hiver, quand les taupes ne s'imaginent plus que la neige n'est qu'une autre couche de terre blanche, un temps plus agréable fait signe aux bergers naïfs. Car les tempêtes d'été, qui se déchaînent parfois, ne font que changer le goût de l'auteur des mottes de terre, qui peut s'abriter à l'ombre d'une meule ou au creux d'une haie en écoutant chanter les brins de paille. Mais attention à l'amour, car un grand amour annonce toujours un grand chagrin. Quand un pauvre homme marche dans les champs, il doit regarder où il met les pieds, veiller à ne pas rencontrer n'importe qui, car Dieu s'y promène aussi. Sa compagnie est dangereuse, et même les renoncules qui paraissent si jaunes pleurent quelquefois. Monsieur Priddle se rendit soudain au ruisseau. Il était sorti de son cottage, comme il le faisait souvent, l'esprit rempli de ce qu'il avait lu ce matin dans un livre. Ses pensées, ce matin-là, étaient sur le qui-vive. Il avait lu deux chapitres qui le faisaient se demander ce qu'il pourrait voir. Il avait le cœur plein de pitié et d'excitation. Il éprouvait de l'amour et il espérait trouver ce qu'il était allé chercher. Il était sorti, oubliant même la canne de marche qui était la compagne de ses promenades. Il avait quitté la maison en hâte, dans l'espoir de voir quelque chose d'étrange dans les champs, car il avait la foi, sachant qu'il n'y avait pas un seul chapitre dans le livre qui ne promettait quelque chose, un don, une joie, un tourment, digne d'être vu et mémorisé, car telle est la destinée de l'homme. Monsieur Priddle avait également compris que le livre rendait toutes les choses nouvelles, et que ce qui s'y passait se passe toujours. Car le passé, le présent et l'avenir, dans ce livre, sont les mêmes toujours. Les vaches broutaient tranquillement quand M. Priddle parvint au ruisseau, et bien que d'autres eussent pu être un peu remués, il ne s'étonna pas le moins du monde de constater, en s'approchant, qu'il y avait quelque chose dans l'eau profonde. Toutes les choses qui arrivent, il le savait, ne sont que les scènes d'une pièce unique, présentées un peu différemment, mais avec toujours les mêmes acteurs. Et pour un esprit fini, la pièce qui est jouée allégoriquement est éternelle. Monsieur Priddle comprit immédiatement ce qui se passait. La scène même qu'il avait lue ce matin-là était en train de se jouer dans le peu profond ruisseau. À ses yeux, un enfant était un nouveau-né, car après tout, qu'est-ce qu'une année ou deux dans une pièce ou une histoire ? Mais paraissant en proie à une peur soudaine, il s'arrêta et regarda le ciel. Il y avait entendu un bruit, et il se demanda un moment s'il devait vraiment jouer le rôle qu'il avait l'intention de jouer, ou si le premier acteur allait de nouveau apparaître. Le bruit qu'il avait entendu n'avait rien d'inquiétant. Une volée de passereaux pourchassait un faucon qui, pour échapper à ses bourreaux, se réfugia dans une haie. Si bien que les petits oiseaux, afin de célébrer leur victoire, se mirent à jouer autour de Mr. Priddle, qui aurait presque pu les compter. « Les enfants d'Achoum !» s'écria-t-il. « 328 !» Mr. Priddle était arrivé si soudainement, marchant à pas de loup sur l'herbe tendre du champ, qu'aucune chose vivante, à part les oiseaux, ne l'avait entendu venir. Il était extrêmement content de lui. Il pensait qu'il avait été conduit en ce lieu par une main invisible, ou plutôt par la page d'un livre, pour jouer le rôle qui lui était assigné. Et il ne fut pas déçu. Elle était là, étendue dans un filet d'eau, la fille, entièrement nue et baignant dans son sang. Quand l'œil intérieur de quelqu'un voit clairement la vérité logée sous une apparence, qu'importe si ces magiciens pleins de ruses, qui sont toujours là et cherchent à nous causer du tort, change en un instant une chose en son contraire. Peu importe, car un brave homme, ayant une fois vu la vérité en face, ne tiendra pas compte de la méchanceté de ses ennemis, qui peuvent bien, s'ils le désirent, dire que le corps de notre seigneurie n'est qu'un accident et être les bienvenus. Mr. Priddle, qui venait de voir avec une certitude absolue la vérité de ce qu'il avait lu, ne remarqua probablement pas que la jeune femme, il voyait que c'en était une, car l'eau n'était pas un linge pour sa nudité, était couverte, non de sang, mais de coquelicots. Il savait seulement qu'il était le héros de la pièce et qu'on lui avait donné le rôle du Père Tout-Puissant. Mr. Priddle, bien qu'il n'en eût pas conscience, n'était pas le premier homme à avoir pris sur lui de jouer un tel rôle, au moins en imagination. Car le prince de Tyr, quand le vent nocturne lui fit entendre la clameur et le rugissement des mers, se mit en marche, croyant qu'il gouvernait l'océan qui lui apportait de si grandes richesses, et cria en rêve qu'il était Dieu. Bien que Mr. Priddle, dont le père n'était qu'un vulgaire John qui tenait une auberge au bord de la route, ne porta pas sur la tête une couronne de roi. Il avait des pensées aussi élevées. Et souvent, dans les nuits d'hiver, quand les rideaux de la chambre à coucher étaient tirés, il regardait le ciel clair et glacial et sentait dans son cœur une divine pitié pour les étoiles solitaires. La pitié n'était pas le seul chagrin avec lequel le digne Mr. Priddle était né. Il avait un amour au cœur, presque depuis le berceau, pour toutes les jeunes créatures qui savaient gambader et danser, surtout pour celles qui ont quelque chose de la nature des fées, qui sont si légères et insoucieuses d'elles-mêmes qu'elles sont ravies par tous les sports et récoltent souvent une ou deux vilaines écorchures dans leur jeu. En chaque chose, à l'exception d'une seule qui était sa lecture, car il était toujours plongé dans un curieux livre, Mr. Priddle était un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire, un peu enclin à la tristesse, peut-être, mais qui ne l'est, à l'âge de 60 ans, avec une barbe taillée au ciseau et une femme aimante qui n'est jamais vraiment heureuse que lorsqu'elle coud. Mr. Priddle était certainement un homme d'un bon naturel, et il n'avait jamais souhaité heurter ou blesser quelqu'un. C'était également un homme religieux, car on l'avait une fois entendu dire qu'il croyait que tous les hommes pourraient être heureux si seulement ils se séparaient de leurs péchés et croquaient des pommes.